Vous êtes sur RTL.
Julien Cellier,
RTL Soir.
Journal présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Avec une bonne nouvelle, tiens, pour les serveurs, les cafetiers, les cuisiniers.
Hausse des salaires en vue dans l'hôtel et restauration. Patrons et syndicats se sont mis d'accord. Jean-Michel Blanquer fait son mea culpa après ses vacances polémiques à Ibiza. Et puis un mariage à 69 milliards de dollars. Microsoft veut racheter le géant du jeu vidéo Activision Blizzard, l'éditeur de Candy Crush.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Aude Vernuccio.
Alors c'est vrai qu'on en parle régulièrement, c'est l'une des problématiques soulevées par la pandémie. Comment retenir les salariés aujourd'hui de l'hôtellerie-restauration? Comment susciter à nouveau une vocation?
Patrons et syndicats sont tombés d'accord pour une hausse générale des salaires. Les syndicats attendent du ministère du Travail une accélération de la procédure en vue d'une application d'ici le 1er avril. Dans ce restaurant parisien du 7e arrondissement, le patron n'a pas attendu cet accord pour augmenter ses employés. Il y avait urgence, Pierre Herbulot.
Pour Antonella, il est arrivé dès le mois de septembre le fameux coup de fil bonne nouvelle de son patron. La chef de rang est augmentée de 11%.
Je suis passée de 1800 à 2000. C'est un métier déjà difficile parce que les horaires qu'ils nous donnent la restauration, ce n'est pas tout à fait des horaires que tous les gens peuvent les accepter. Ça me donne la force de continuer d'avancer et de grandir.
Si Pascal Moussel, le directeur du restaurant chez Françoise, voulait féliciter l'investissement de sa serveuse, il voulait aussi la motiver à rester. La pénurie de main-d'œuvre pousse depuis l'automne aux augmentations. Presque davantage que l'accord fraîchement négocié.
Ce qui fait loi, c'est quand même le marché du travail. C'est l'offre et la demande. Et aujourd'hui, vous vouliez avoir un professionnel qui sache faire le service ou qui sache faire la cuisine. On a dû augmenter de 15 à 20% nos propositions d'emploi. Absolument. Sinon, nous ne trouvions personne.
Alors oui, le travail est dur, concède le patron, mais il paye et de mieux en mieux.
Le reportage de Pierre Herbulot pour RTL. Autre nouvelle pour le secteur, le Premier ministre Jean Castex annonce des aides supplémentaires ce soir pendant deux mois. Hôtels, restaurants, traiteurs, agences de voyage qui ont perdu au moins 30% de leur chiffre d'affaires à cause des restrictions de la fin d'année.
On en vient maintenant au semi-mea culpa du ministre de l'Éducation.
Mediapart a révélé que Jean-Michel Blanquer était à Ibiza lorsqu'il a dévoilé le protocole sanitaire de rentrée à l'école par voie de presse devant l'Assemblée nationale. Il a donc consenti à s'excuser.
D'abord, est-ce que j'avais le droit de prendre quelques jours de congé après cette année? Est-ce qu'il y a des réunions ou des éléments que je devais faire pendant cette période que je n'ai pas fait à cause de ça? Non, bien sûr. Et troisièmement, est-ce que les décisions auraient été différentes si j'avais été ailleurs? Non plus. Donc, il y a, je le reconnais, une symbolique. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette.
Techniquement, il n'a donc pas enfreint les règles, mais le détail a de quoi embarrasser le gouvernement et attiser la colère des syndicats et de l'opposition. Certains réclament sa démission. Écoutez la réaction du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
Ça ne changerait pas grand-chose à la pagaille que M. Blanquer a déjà semée, mais disons que moralement et symboliquement, ça aurait une portée qui montrerait qu'on est quand même sensible aux questions de la morale, d'une certaine manière de se comporter. Il a eu tort et ça serait bien qu'il s'en rende compte. Maintenant, je pense que profondément, il s'en fout. Monsieur Macron aussi. Ces gens-là pensent qu'ils font partie de ceux qui ont réussi dans la vie et que les autres sont des riens.
Propos recueillis par Marie-Bénédicte Thaler pour RTL, Jean-Michel Blanquer qui s'exprimera ce soir sur le plateau du JT de TF1.
Et puis de la remontada à la terminada, on l'apprend ce soir via l'AFP. Arnaud Montebourg pourrait annoncer son retrait de la course à la présidentielle dans les toutes prochaines heures, à moins de 3 mois de l'élection.
Cette question maintenant, est-ce que le nombre de primo-vaccinés a vraiment, vraiment décollé depuis les annonces du gouvernement?
C'est ce que déclarait Christophe Castaner, le patron des députés En Marche, dimanche, en pleine lecture du projet de loi sur le pass vaccinal. On a regardé les chiffres de plus près avec vous, Agathe Landais. Oui, les primo-vaccinés sont plus nombreux, mais pas autant que le souhaiterait le gouvernement.
Non, et vous allez vite comprendre pourquoi. Il suffit de regarder les chiffres. Ces 7 derniers jours, 314 000 personnes ont reçu pour la première fois une dose de vaccin. Et au total, depuis début janvier, il y a eu près de 600 000 primo-vaccinations. Présentés ainsi, ces chiffres sont effectivement très bons. Et c'est vrai que l'on n'a jamais autant injecté de première dose depuis le mois de septembre. En revanche, on ne peut pas attribuer cette hausse simplement à la pression exercée sur les non-vaccinés. Le pass vaccinal a certes pu en convaincre certains, mais n'oublions pas que depuis le 22 décembre, on a commencé à vacciner une nouvelle tranche de la population, celle des enfants âgés de 5 à 11 ans, 175 000 vaccinés en un mois. Ils représentent donc une part importante des premières doses injectées en ce moment. Par exemple, samedi, ces enfants représentaient 58% des primo-vaccinés.
Agathe Landais, spécialiste santé d'RTL, merci à vous.
La surmortalité due au Covid, évidemment, elle existe, elle a continué à augmenter, mais on va essayer de voir les bonnes nouvelles aussi ce soir. La natalité est en hausse en 2021.
Selon le dernier bilan démographique de l'INSEE, on compte 738 000 petits Français de plus. Après le blues des parents pendant le confinement, les couples se sont rapprochés, Anaïs Bouissou.
Oui, à la fin du premier confinement, à partir de mai 2020, il faisait beau, la bonne humeur est revenue et cela a sûrement donné des envies de bébé à tout le monde. Le résultat, il s'est vu 9 mois plus tard, à partir de février 2021, où la courbe des naissances a grimpé en flèche et jusqu'au mois de décembre. Ce qui a permis de rattraper les chiffres 2020, il y a eu 3000 bébés de plus en 2021.
Anaïs, on parlait de surmortalité. Quand on regarde de plus près, le nombre de décès en 2021 est tout de même moins important qu'en 2020, au plus fort de la pandémie.
Oui, alors on compte toujours plus de décès qu'avant la pandémie, mais oui, l'effet du Covid s'éloigne un peu. En 2021, l'INSEE enregistre 12 000 décès de moins qu'en 2020. Résultat, quand on fait le compte entre les naissances et les décès, on revient bien sur un solde positif. La population augmente en France, nous sommes désormais 67 800 000 habitants.
Anaïs Bouissou du service économie de RTL. Et puisqu'on parlait de la pandémie, on apprend à l'instant le chiffre des cas quotidiens du coronavirus. 464 769 nouveaux cas. Autant dire que le pic, on dit qu'on s'en approche, n'est pas encore atteint.
On parlait de la hausse des naissances à l'instant, Julien. Une nouvelle qui réjouirait sans doute la nouvelle présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, conservatrice et mère de 4 enfants. La juriste maltaise de 43 ans est aussi une fervente opposante à l'avortement. Alors avancée ou recul, le choix questionne dans une Europe qui a fait de la défense de ses valeurs une priorité.
Bénédicte Tassard, vous êtes au Parlement européen pour RTL, où Roberta Metsola, malgré son opposition à l'IVG, a bénéficié d'un soutien assez hétéroclite.
Roberta Metsola, 458 votes.
458 voix dès le premier tour. Un raz-de-marée pour cette cadra de droite modérée qui laisse bien derrière elle la candidate suédoise écolo et l'espagnole de la gauche radicale. On votait pour Roberta Metsola, le PPE, la droite bien sûr, mais aussi les sociaux-démocrates et les libéraux de Renew. Hier, une réunion entre les trois partis a permis de trouver un accord. Par exemple, l'eurodéputée En Marche Valérie Ayer ne votait pas pour une personne, mais pour un projet, nous dit-elle.
Il y a évidemment tous les enjeux liés à l'état de droit. Il y a les enjeux évidemment liés aux droits des femmes. Et puis il y a aussi l'appel à avancer vraiment sur l'autonomie stratégique de l'Union européenne, avancer vers la régulation des géants du numérique et puis avancer sur cette Europe sociale pour permettre à l'ensemble des travailleurs d'avoir un revenu décent.
Roberta Metsola, de son côté, a convenu qu'elle laisserait ses positions anti-avortement de côté le temps de son mandat.
Bénédicte Tassard à Strasbourg pour RTL.
Allez, une petite pause et ensuite un mariage à plus de 68 milliards de dollars. Candy Crush, ce sera bientôt Microsoft.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Allez, 19h10, la suite de votre journal sur RTL avec ce mariage qui s'annonce festif à 69 milliards de dollars. Le géant Microsoft annonce son union avec l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard.
Alors, le nom ne vous dit sûrement pas grand-chose comme ça, sauf si vous jouez à Candy Crush ou pour les ados à Call of Duty. À l'issue de la transaction imaginée, Microsoft deviendra le troisième société de jeux vidéo du monde. Lionel Gendron, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Après l'annonce, l'action d'Activision s'est envolée à Wall Street.
Plus 37% à l'ouverture, c'est effectivement une envolée. Il faut dire qu'il y a 3 milliards de joueurs dans le monde. C'est le secteur de divertissement à la plus forte croissance. Pour réaliser cette opération gigantesque, Microsoft a en partie profité d'une situation interne difficile pour Activision. Ces derniers mois, il y a eu dans l'entreprise 700 signalements pour agression sexuelle ou harcèlement. 40 salariés ont déjà été licenciés. D'un point de vue stratégique, Microsoft acquiert des marques, des valeurs sûres. Même parmi les novices, beaucoup ont en effet déjà entendu parler de Call of Duty, Warcraft ou Candy Crush. C'est aussi une incursion dans l'avenir annoncé des réseaux sociaux, ce que l'on appelle le métaverse, ces mondes virtuels dans lesquels vous pourrez vous projeter, en tout cas votre version virtuelle. Facebook, d'ailleurs rebaptisé Meta, est précurseur. Microsoft ne veut pas laisser passer le train du futur.
Lionel Gendron, correspondant d'RTL aux États-Unis.
Allez, on va partir maintenant à Orléans. Vous la découvrez depuis le début de la semaine. Il y a une nouvelle série de reportages sur cette antenne. 7 jours, 7 reportages. Chaque lundi, nos reporters s'installent jusqu'au dimanche dans un endroit en immersion pour parler de vous, parler de vos préoccupations. Et ce sera le cas jusqu'au second tour de l'élection présidentielle.
Valentin Boisset a pris ses quartiers rue de la République à Orléans. Une rue dans laquelle on trouve de plus en plus de magasins qui vendent du CBD, des fleurs en tisane ou à fumer, dérivé du cannabis qui est désormais interdit et qui intéresse particulièrement les plus âgés, Valentin.
Oui, armé d'une canne, un couple de grands-parents s'arrête devant un écriteau. On y lit « Il faut sauver le CBD ».
On va faire un essai.
Vous avez quel âge ?
76 ans. J'ai pas peur.
Michel et Jeanne entrent dans la boutique.
Mon ami avait essayé, là, problème pour ses pieds.
Ah, c'est pour des douleurs musculaires, articulaires ?
Oui,
articulaires,
oui.
On va dire.
Prendre, vous mettez donc les gouttes sous la langue.
Oui.
Et au bout d'une minute, vous avalez.
Michel saisit une fiole d'huile de CBD car Jeanne a de l'arthrose. Nicolas, le gérant, ne peut pas leur proposer de fleurs de chanvre interdites à la vente depuis début janvier.
Et pour avoir ça, je risque 10 ans de réclusion criminelle.
Ces fleurs composaient 70% de son chiffre d'affaires.
Ça signe l'arrêt de mort de nos magasins. Yannick Jadot s'est positionné en défense de la filière CBD. On essaye de les interpeller. À ma connaissance, c'est le seul candidat à la présidentielle déclaré aujourd'hui qui l'a fait.
Si vraiment c'est efficace, il faut que ça soit à portée de tout le monde. Si on peut être soulagé, c'est le principal.
Nicolas espère avec ses collègues en faire un sujet de campagne alors que Jeanne et Michel, eux, ont directement testé les produits.
On va essayer alors ?
Oui, je vais essayer, oui, tout à l'heure.
À la sortie.
Un reportage signé Valentin Boisset pour RTL. La série 7 jours, 7 reportages, c'est à retrouver sur l'application numérique et sur RTL.fr.
Et donc on sera de nouveau demain matin, rue de la République à Orléans. Le tennis maintenant, direction Melbourne et l'Open d'Australie.
Alizé Cornet, Benoît Paire ou encore Richard Gasquet se sont qualifiés pour le second tour. Ce dernier en battant Hugo Humbert, le vétéran du tennis français, face à sa relève. Un Richard Gasquet, à peine guéri du Covid, quasi sans préparation et qui a visiblement retrouvé un peu de son pays sur les cours australiens.
Et si on jouait un circuit qu'avec le vent, je pense que je suis toujours top 20, top 15, quoi, vraiment, parce que je suis né dedans. J'ai joué toute ma carrière, fait toute ma vie dans le vent, jeune dans les roues, donc forcément, je sens que c'est des conditions où je suis très fort. Quoi. C'est une victoire, une grosse surprise pour moi, je ne vais pas dire le contraire d'avoir gagné. Mais je n'ai pas fait de match, j'étais 7 jours dans un lit, dans une chambre. Toutes les 20 minutes, je regardais quelle heure il était. Donc oui, forcément, c'est le tennis et c'est parfois irrationnel. Ça fait plaisir de gagner ce match-là, tu te sens encore un peu vivant.
Des propos
Richard Gasquet, sous le vent australien. Merci beaucoup, cher Aude. On vous retrouve tout à l'heure à 20h pour un nouveau point sur l'actualité. Je suis troublé, je ne m'attendais pas.